édition spéciale du Temps des Fêtes.
91.9 Sport.
C'est l'heure de la revue de l'année du FC 919 en ce qui concerne l'impact de Montréal. Olivier Brett, très heureux d'être avec vous et surtout très heureux d'être en compagnie de Nilton George, qui est rendu, ma foi, un habitué. Là, tu fais partie des meubles,
Nilton. Tu commences à être à l'aise, peut-être trop.
Non, tu peux jamais être trop à l'aise, surtout en radio. C'est ça qui fait que c'est super intéressant de t'avoir comme collaborateur ici à la station. Tu parles évidemment très souvent avec Stéphane Gonzalez et Max Vanout les jours de semaine. D'abord, on va prendre notre temps pour passer à travers cette saison-là. J'aimerais que tu me décrives en un mot, peut-être deux, trois mots, peut-être une phrase. Tiens, je vais te donner un gros break en partant pour pas te mettre trop de pression. L'année 2019, tu résumes ça comment chez l'Impact?
Ah, mon Dieu. Tu sais, je me souviens du fameux buzzword il y a deux ans, c'était transition. Là.
Ouais.
Ça a pas mal débarqué. Ça a été comme un... Tu sais, j'ai un mot anglais, c'est « repeat ». Tu sais, je veux dire, peu importe qui on met en place, peu importe les joueurs... On a l'impression que c'est du déjà vu, hein.
On fait un peu de Bill Murray, là. C'est le jour de la marmotte, quelque part.
Non, on veut changer beaucoup de choses, mais malgré tout, on finit par répéter peut-être les mêmes erreurs, mais tu sais, les solutions se répètent. Mais bon, on en reparlera probablement plus tard, mais il y a espoir pour l'avenir. Mais cette saison, ça a été ça. C'est peut-être une répétition du passé qui colle un peu trop à l'Impact de Montréal.
Et pourtant, ça avait été un début de saison extraordinaire.
Ouais, je sais.
Ça fait longtemps. Ça semble faire deux, trois générations, là. Même pas une c'est qu'on a eu ce début de saison-là où on parlait de fiches records pour les matchs sur la route au bout de quoi? Au bout de cinq? Six matchs.
Ouais, au mois de juin.
Puis au mois de mai, là, on parlait de séries éliminatoires parce que là, ce qui s'en venait, c'était beaucoup moins de matchs à l'étranger. C'était beaucoup plus de matchs à domicile. Et finalement, quand tu parles de scénario répété, c'est peut-être celui-là qui, d'un point de vue business, quand on prend la perspective de Kevin Gilmore, est le plus inquiétant parce que avec cette vague-là en début de saison, t'as pas été capable, un, de capitaliser en termes de résultats à domicile, mais t'as pas été capable de remplir ton stade non plus. Et le constat, c'est peut-être sur ce début de saison-là qu'il y a deux choses à prendre en considération. Les résultats, ça c'est le fun pour ton classement, mais il y a le divertissement, il y a le spectacle que t'offres aussi. Et je comprends que tu vas pas te faire lever tout le monde dans son salon à chaque cinq minutes pendant un match, mais il faut que tu leur donnes une raison de transposer ce qu'ils voient à la télé en ça me tente de me déplacer au stade. Puis c'est peut-être ça qui est pas arrivé cette saison.
C'est vrai, Oli, parce qu'on quand on regardait le calendrier, on avait peur. On voyait arriver les matchs à l'étranger. On se dit, oh mon Dieu, après cette grosse séquence-là, je me souviens plus de la séquence, mais c'était quelque chose comme 5-6 matchs là à l'étranger en début de saison. On se dit, oh, quand on va finalement jouer au stade, c'est plutôt peut-être qu'on pourrait être dernier, avant-dernier au classement. Puis ça va faire mal au moral des joueurs, ça va faire mal au staff, ça va faire mal au niveau aussi de la billetterie. Et finalement, c'est super bien passé, mais on a été aveuglés par les résultats au lieu de se demander pourquoi on a obtenu ces résultats-là. On était peu, vraiment peu nombreux à dire oui, on les a gagnés ce match-là, mais si on refaisait ce match-là 10 fois, en combien de fois qu'on aurait pu le gagner? Et c'est tellement devenu un naturel d'avoir gagné ces matchs-là qu'on a peut-être fait l'erreur de pas corriger.
C'est devenu un mirage.
Exactement. Puis là, peu importe ce qu'on disait, on se faisait toujours reprocher, mais regarde le classement, on était pratiquement deuxième à un moment donné. Et ce classement-là, je pense, a fait mal aux joueurs, a fait mal au staff, et ça a probablement fait mal aux partisans, parce que les partisans ont pas été capables de mettre de la pression sur l'organisation pour changer des choses. Parce qu'ils...
Tu veux dire que t'avais pas le levier de dire on est dans la cave,
oui,
par exemple,
exact.
On est en dessous de la ligne des séries.
Là, tout ce qu'on se disait, c'est bon, mais c'est parce qu'on peut-être qu'on a un peu plus de difficultés parce que Nacho est pas là, ou quand Nacho va arriver, tout va revenir à la normale. Et il y a eu cette occasion-là qui était un peu ratée, et j'ai aimé que t'amènes aussi le point du spectacle, parce que plus on avançait dans la saison, plus on oubliait un peu les résultats parce qu'ils étaient pas en notre faveur, et plus on réalisait que aller au stade Saputo, ça commençait à être une purge. Autant, j'ai jamais vu autant de spectateurs. Ça fait quoi? Ça va faire 7 ans qu'on est en MLS. J'ai vu des gens en colère dans les estrades. Je me souviens d'une conversation une fois que t'avais eu au FC 919 où t'avais assisté, je pense avec Georges Larac, dans les estrades.
Oui.
Et t'avais été étonné. La réaction des gens, l'ambiance était pas trop joviale.
Il y a un gars à côté de nous. C'était le match contre Cincinnati. Il y a un des gars à la mi-temps. un partisan dans les estrades qui avait, je sais pas s'il l'a enlevé parce qu'il l'avait sur le dos ou s'il l'avait pour le faire signer après un match ou juste le brandir comme une écharpe dans les estrades, le gars a pris son maillot, pis c'est un maillot de 2019, là. Ouais. Pas une vieille affaire que tu te dis, ben, de toute façon, ça vaut plus grand chose, puis je vais m'en débarrasser, c'est juste...
Pas un maillot avec le logo, c'est plutôt dessus.
Écoute, il lance sur le terrain à la mi-temps, puis il dit, c'est terminé pour moi, je m'en vais. Et c'est un sentiment auquel les propos des supporters que j'ai vus souvent en fin de saison dans les tailgates après les rencontres, ouais, c'était exactement la même chose qui sortait de leur discours. Ils disaient, qu'est-ce qu'on vient faire ici?
Exact.
Et quand t'es pur et dur, ouais, se dire ça, t'es mal pris.
Mais je te dis, Oli, quand tu l'as vu, moi, ça faisait peut-être quelques semaines, voire 2-3 mois que je voyais ça arriver parce que moi, bon, je suis installé dans les estrades à toutes les fois et je voyais cette ambiance-là négative où les gens critiquaient. Le fait de critiquer Samuel Piette, peu importe d'où ça vient, c'est un symptôme, là. Je veux dire, quand ton joueur favori se fait ramasser par une section de les estrades, il y a un problème. On sent que les gens étaient énervés, aimaient pas le spectacle. En plus, les résultats ne venaient pas. Et oui, ça devenait un problème parce que on commence l'année avec le fameux buzz effet Gilmore. Ouais. Et 2-3 mois plus tard, Gilmore est rendu le souffre-douleur parce que on espérait des changements, puis là finalement Gilmore, on en parlera probablement plus tard, était pris pour faire d'autres choses pour ce qui avait été embauché.
Celui qui a pas été embauché par Kevin Gilmore, c'est Rémy Garde.
Ouais.
Est-ce que le constat d'échec, parce que c'est obligé d'être ça, Rémy Garde n'a pas passé à travers son contrat, s'est pas rendu au bout de sa deuxième saison. Il a été congédié en fin de campagne quand il restait quoi? 7 matchs, ouais. 6 matchs de MLS à faire avec quelques matchs de championnat canadien aussi. Qu'est-ce que tu vois là-dedans? Est-ce que c'est un échec de Rémy Garde ou c'est un échec, ça peut être les deux remarques, un échec d'organisation qui a embauché le mauvais gars à la base il y a 2 ans avec une grosse feuille de route, donc un peu comme les résultats en début de saison sur la route. Ça fait mirage parce que tu te dis, ben écoutons, tu peux pas t'obstiner avec ça. À quelque part, t'as pas de levier pour dire peut-être que c'était pas la meilleure des embauches. Parce qu'au final, là, Rémy Garde a été un peu fidèle à lui-même, ouais, d'un bout à l'autre de son règne. Donc si on chiale sur le spectacle qui a été offert, faut peut-être chialer sur le fait que c'est un gars comme ça qu'on est allé embaucher.
Tout à fait. Tout à fait. Puis, personnellement, ça me fait mal de voir l'échec de Rémy Garde parce que très longtemps, j'ai demandé qu'on sorte un peu de notre tradition de coaching puis qu'on suive un peu la vague MLS pour aller chercher le coach DP. Et même moi, personnellement, j'ai peut-être surestimer le fait d'engager un coach et que ça allait solutionner probablement tout ce qui allait pas avec l'Impact de Montréal.
Prends les clés, règle-nous ça. C'est
exactement
un peu ça,
parce que j'ai pas de structure. Je vais donner ça, les clés, à quelqu'un qui a une certaine réussite, qui va amener une certaine crédibilité, qui va amener un certain staff, et on va être en business. Parce que, mais rapidement, on a senti comme un double effet. On a senti que on avait peut-être surestimé la capacité d'un entraîneur DP, que ça soit Rémy Garde ou un autre, peu importe, là, c'est pas pour nécessairement pointer Rémy Garde, mais on a peut-être surestimé sa valeur et sa capacité à changer les choses. Et en face, au début de son règne en MLS, on a vu aussi que lui peut-être avait sous-estimé le travail à faire. On a vu des embauches, on a vu des réactions où ça a été lent à réagir. Le Rémy Garde de fin de saison, même si ça allait moins bien, le Rémy Garde de la deuxième saison versus le Rémy Garde des premiers mois à l'Impact de Montréal était complètement différent. Mm-hmm. Il coachait beaucoup, il était beaucoup plus interventionniste, tandis que au départ en MLS, il regardait ça un peu de haut puis il se disait, bon, mon expérience devrait suffire au succès du club.
Cette expression-là, entraîneur désigné.
Ouais.
Je suis le premier à l'avoir utilisé quand Rémy Garde est arrivé. Écoute, ouais, il avait arrivé avec un standing extraordinaire. Maintenant, est-ce qu'on garoche cette expression-là au vidange à tout jamais?
Ben, probablement, parce que c'est probable.
Parce
c'est
que ça
la norme.
Été, mais
la
ça n'a pas été utilisé avec Thierry Henry depuis son arrivée, là, cette expression-là.
Non, c'est vrai. Thierry Henry, ça dépasse tout. C'est l'effet de surprise, ouais, qui fait, parce que c'en est pas un. C'est un coach novice.
C'est vrai.
On peut pas dire que c'est un coach DP. Aller chercher un coach DP, c'est si tout d'un coup on se ramasse avec Pochettino. Là. Je veux dire, c'est pas le cas. Là on voit, Miami cherche un coach DP. Nous, ouais, on est allé gambler sur potentiellement un coach qui pourrait avoir une belle
ici
carrière. C'est ça. On espère devenir le levier de la carrière à Thierry Henry. Donc non, je pense pas qu'on puisse utiliser cette expression-là.
Un des éléments marquants pour la dernière saison, et on va conclure le cas Rémy Garde là-dessus, c'est que pour la première fois, à ce que je sache, l'option d'un entraîneur devait être exercée ou omise au mois de mai.
Ouais.
Avec le recul, est-ce que tu trouves que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Parce que si on avait couru jusqu'à la fin de la saison avant que l'Impact ait à se décider, ben là, il y a pas mal d'affaires qui auraient traîné. On parle de Thierry Henry, on serait probablement pas en train de parler de son arrivée à la barre de l'équipe en ce moment, parce que t'aurais jamais congédié, à mon sens, un gars comme Rémy Garde, t'aurais attendu. Est-ce que, si c'était à refaire, une option comme celle-là que tu places au mois de mai, avec, de ce que je comprends, seulement un mois, prenons du premier jusqu'à la fin du mois de mai pour décider oui ou non. Puis après ça, ben si t'as refusé, c'est parce que tu repars sur une nouvelle négociation de contrat, comme t'as fait avec Anthony Jackson-Hamel, par exemple, à la fin de la saison, où il y avait une option pour 2021. Tu dis non, ça m'intéresse pas les termes de cette entente-là qu'on avait au départ. On aime mieux repartir sur des nouvelles bases. Qu'est-ce que tu penses? Si c'était pour Thierry Henry, par exemple, en 20... Là, on va être où? Là, on va être en 2022. Serais-tu en 2021 pour 2022? Serais-tu confortable avec le fait que ce soit au mois de mai?
Moi, ce que je vois, le terme, cette échéance-là du mois de mai correspond à des échéances européennes.
100%.
C'est clairement une option qui a été ajoutée par Rémy Garde parce qu'il voulait avoir son avenir rendu au mois de mai. C'est hyper important de savoir ce qui se passe.
Mais est-ce que ça a joué à la faveur de l'Impact?
Pas du tout, parce que l'Impact est incapable de décider. Il y a même pas la structure pour décider. Là, présentement, c'est peut-être un peu moins problème.
Non, mais ça précipite les choses quand même.
Tout à fait, parce qu'on se retrouve en plein milieu de la saison, on espère, et au mois de mai en MLS, il y a tellement de choses qui peuvent être changées. T'as la fenêtre des transferts hyper importante de l'été qui est même pas entamée, donc c'est un problème. Mais à l'époque, ils devaient être tellement contents de signer finalement leur coach d'épée qu'ils ont signé un peu à l'aveugle, donc ils étaient pris avec ça. Et le plus gros problème, c'est qui devait prendre cette décision en 2019? Un gars qui a avoué lui-même ne rien connaître au foot et qui ne devait pas intervenir au niveau sportif, il a passé la saison à intervenir au niveau sportif. Ça a été un méga gros problème. On est chanceux, heureusement, ça s'est bien terminé, parce que son intervention, que tout le monde blâme un peu parce que ça a été précipité dans l'urgence, finalement a été payante.
On va parler de l'autre côté de la pause de Kevin Gilmore, parce que c'était sa première année en charge, lui qui a eu la présidence de Joey Saputo il y a un an à peine. J'ai hâte de t'entendre là-dessus, mais juste avant, là, comme teaser, tu lui donnes une note de combien sur 10, Kevin Gilmore, cette année?
Je pense que j'hésite entre le 5 et le 6. Ça peut pas être une note de passage parce qu'il y a pas de play-off, mais il est tellement chanceux d'avoir obtenu cette place-là au championnat canadien, ce trophée-là qui donne accès à la Ligue des champions, parce que la saison 2020, elle s'amorce de façon hyper positive. Puis finalement, c'est grâce à lui, c'est sa décision. Ça veut pas dire que Rémy Garde l'aurait pas réussi.
Non.
Mais ultimement, il a pris une décision, il y a une conséquence directe. Fait que je vais donner 6, parce que le championnat canadien, ça reste quand même un championnat particulier.
Un 6 qui est dans la cour à Wilmer Cabrera. En plus, Nilton George, j'adore ça. On fait une courte pause, on revient de l'autre côté. On va poursuivre à ce moment-là la revue 2019 de l'Impact de Montréal au FC 919.
On a réuni nos plus gros joueurs autour d'une dinde pour vous créer des moments sportifs vraiment festifs.
Émission spéciale du temps des fêtes. 91.9 Sport.
En tout cas, on peut pas dire que la saison du Canadien est un joyeux festin cette année. Hein, Marc?
Moi, je suis un fighter. Je vais me battre jusqu'à la dernière minute, puis j'entends la même chose de mes instructeurs et des joueurs.
91.9 Sport.
La référence sportive du temps des fêtes.
De la part de toute l'équipe de l'Hippodrome de Trois-Rivières et des Salons de Paris du Québec, nous vous remercions pour une belle année 2019 remplie de succès et d'excitation. En attendant la nouvelle saison, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Pour toute information, www.hippodrome3r.ca.
La consommation de cannabis comporte des risques. Si vous choisissez d'en faire usage, privilégiez des produits à faible teneur en THC, rangez toujours ces produits en lieu sûr. Et si vous ingérez des produits comestibles, commencez par de petites doses et attendez avant d'en reprendre, puisque l'effet tarde à se faire sentir et dure plus longtemps. Rappelons que seule la Société québécoise du cannabis est autorisée à vendre des produits de cannabis non médical au Québec. Pas de risque à prendre. Informez-vous au québec.ca/cannabis. Un message du gouvernement du Québec.
Les soldes d'après-Noël sont en cours chez Mulligan Centre du Golf. Des tonnes d'offres incroyables vous attendent au magasin, dont des rabais pouvant aller jusqu'à 50%. Venez en profiter du 26 au 31 décembre pour partir la nouvelle année du bon pied. Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan.
Chez Paré, on a demandé à nos clients de décerner les 3 étoiles du match.
La 3e étoile. Le buffet gratuit de 5 à 7 les soirs de semaine où le tricolore joue à domicile. La 2e étoile. Notre formation partante, toujours prête à vous montrer l'étendue de leur talent pendant que le match est diffusé sur nos écrans. Et la 1ère étoile. Notre après-match, que des choix de premier tour pour vous faire vivre à fond la prolongation. C'est pas minoritaire, c'est pas majoritaire, c'est unanime. À Montréal, le capitaine, c'est Paré. Rendez-vous chez Paré, 1258 rue Stanley. De Québec sont en ville contre votre armada de Blainville-Boisbriand. La troupe de Bruce Richardson contre celle de Patrick Roy s'affronteront à 19h30 ce vendredi le 3 janvier. Faites vite et achetez vos billets au armadahockey.ca.
Armada qui s'est au pointage.
La radio officielle de l'armada.
Programmation spéciale des fêtes.
91.9 Sport.
Pourquoi changer de station?
On est de retour toujours en mode revue de l'année 2019 de l'Impact de Montréal. Une saison qui a été remplie de rebondissements. Olivier Brett toujours avec Nilton George. Nilton, on parlait tout à l'heure de Kevin Gilmour qui en a eu plein son assiette cette année. Hein, parce que, évidemment, on peut comprendre les critiques envers lui qui disent « Ben là, la première journée que tu débarques ici, tu te présentes comme étant un gars d'affaires, pas un gars du sportif, mais en même temps, en cours de route, t'as pas de directeur sportif, t'as pas de directeur technique. Nick DeSantis quitte le navire après 26 ans. Ton entraîneur, à un moment donné, t'es à une croisée des chemins, t'as décidé si tu le remercies, tu le renvoies. T'as Wilmer Cabrera, qui est un gars probablement refilé par Matt Jordan, un ancien de ton organisation, qui vient de congédier ce gars-là à Houston. Écoute, ça a pas été une année facile quand même.
Non, non. Lui, il a fait bac et maîtrise en un an de foot international. Il a appris tout, là. La première année, là, j'espère qu'il a pris des notes parce que il a beaucoup, beaucoup appris de choses. Oui, il a même fait un procédé d'embauche, là. C'est lui qui a embauché Wilmer Cabrera. Je me souviens que lors de la conférence de presse, la question que je voulais entendre, c'est qui a rencontré Wilmer?
Mais ça a été répondu.
Ça a été répondu à la
avec Kevin Gilmour, Vasily Krymanzidis et Joey Saputo.
C'est quand même incroyable. Mais en même temps, il n'y a personne d'autre. Il fallait que ça soit lui.
Exact.
Parce que lui, il prend la décision à ce moment-là que le coach, ça ne fait plus le travail. Donc, sa capacité d'analyse est quand même... on peut poser des questions sur quoi qu'il se base pour dire que ce coach-là est pas capable de continuer, à part peut-être ses expériences autres.
Ou un feeling.
Puis on le disait...
Puis c'est ce que Kevin Gilmour a dit, d'ailleurs. Il a dit, on sentait qu'on avait besoin de donner un coup de barre, un électrochoc. On a parié.
Malheureusement, c'est le genre de discours qu'on entend au hockey. Tu sais, c'est comme on s'approche des séries, on les fait pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait l'électrochocs. Donc c'était bizarre. Et là, tout d'un coup, tu te retrouves avec plus personne de foot autour de toi. Nick DeSantis est plus là. Tu dois toi-même trouver un coach pour sauver la saison. Tu te bases sur quoi? C'est quoi tes capacités pour faire ça? C'est hyper compliqué. Donc on comprend un peu plus pourquoi il s'est tourné vers la facilité, c'est-à-dire un coach qui connaît la MLS, qui vient d'être disponible. C'était le premier sur la pile. Il l'a pris, puis go.
Le seul sur la pile, soyons honnêtes.
Exact. Et il y avait aussi un clash de personnalité. Donc, à court terme, c'est pas la tactique qui allait changer l'Impact de Montréal. C'est la personnalité, c'est sa drive qui est complètement différente. Probablement qu'il avait eu, qui a sondé un peu le terrain. Il devait avoir aussi, on l'a entendu, ça dérangeait certaines personnes, mais le vestiaire était peut-être un petit, ça arrive à peu près avec toutes les coachs.
Non, mais c'était divisé. C'est
divisé. Donc, t'amènes un nouveau coach. Tout le monde veut repartir à neuf. Tout le monde a cette impression-là de pouvoir sauver sa saison. Mais bon, c'était plus compliqué là, à faire qu'à dire. Là. Donc, ça a été particulier, disons, comme fin de saison.
Kevin Gilmour a quand même eu un discours qui détonne avec ce qu'on a dit dans le passé. À mon sens, l'Impact a toujours l'habitude de nous présenter un portrait comme quoi on sait ce qu'on fait. Tout va bien. On n'a pas vraiment fait d'erreur dans le passé. On pèle la faute ou la responsabilité dans la cour de l'autre. Généralement, un autre qui vient de quitter, que ce soit un joueur, un entraîneur ou un poste quelconque, là, d'avoir un Kevin Gilmore. Mettons le processus d'embauche qui a toujours été un énorme défi pour l'Impact de Montréal, parce que embaucher le premier sur le bord, c'est pas juste de l'air Kevin Gilmore, c'est arrivé dans le passé. Ceci dit, d'avoir un président qui est plus présent dans les médias,
ouais,
qui dit on n'a pas été assez agressif, on a pris les choses pour acquises. En début d'ère MLS à Montréal, on n'est pas allé vers les gens. On a pensé que parce qu'on avait le stade, parce qu'on avait l'équipe, les gens allaient de facto se pointer puis venir supporter l'équipe. Faut être plus agressif dans notre communication. Faut être plus près des gens. Aller les chercher avec un marketing plus intéressant. Et aussi, puis là, ça clash en s'il vous plaît. Un président qui dit, on n'a pas d'identité propre. On a besoin de la définir comme il faut, parce qu'en ce moment, on a difficilement, on n'est pas capable d'expliquer aux gens ce qu'on est. Dans le fond, c'est quoi notre ADN? On a une idée un peu vague, mais ça donne des résultats qui le sont tout autant. Ça, est-ce que c'est quelque chose qui te fait dire, ben coudonc, là, ça va pas bien? Ou au contraire, tu dis, enfin, quelqu'un qui voit les choses comme elles le sont, puis là, ça donne le pouvoir d'agir à partir de maintenant?
J'ai lu dernièrement un article qui expliquait un petit peu les erreurs de FC Cincinnati, puis c'est exactement la même chose que l'Impact a fait. L'Impact a son identité de l'ère USL, NASL, c'était d'avoir la meilleure équipe en achetant les meilleurs joueurs et d'être gagnant.
Parce que si on remonte, là, juste pour donner un peu de contexte, parce que c'est super intéressant ce que tu dis, Nilton, on remonte à l'ère pré-MLS, la USL.
Exact.
Ben, t'arrivais à la mi-saison, l'année 2011, dernière année en deuxième division, on est un exemple parfait. Ouais. T'as arrive à mi-saison, ça ne fonctionne pas, tu te rachètes, entre guillemets, une nouvelle équipe.
Voilà.
Mais le problème, c'est qu'en MLS, tu peux pas faire ça.
Tu peux pas faire ça. Et en plus, les gens maintenant... suivent beaucoup plus la Ligue. Avant, on suivait l'Impact de Montréal. Là, on suit la MLS. Quand on regarde à gauche et à droite, il y a des monstres d'organisations qui font rêver. Là, tu regardes, une équipe arrive en deux saisons, Atlanta United gagne la MLS Cup. Quand l'Impact de Montréal est arrivé, on avait toujours l'espèce de refrain, oh, on est une équipe d'expansion. Ça s'applique pas en MLS, une équipe d'expansion. Tu peux devenir champion en 12 mois, il y a pas de problème. Tu regardes d'autres organisations hyper excitantes, des Portland, des Seattle qui ont leur propre modèle. Et là, l'Impact de Montréal, tu sais, le constat que Kevin Gilmore, il est très bon là, le constat de Kevin Gilmore pour dire oui, ce club là, on est pas, si on veut le définir sur un papier, qu'est-ce que l'Impact de Montréal? Tout le monde va avoir sa propre définition. Moi, ce que j'ai peur, c'est que, à part trouver le constat, là, dire voilà ce qui marche pas, est-ce que Kevin Gilmore, encore une fois, a les outils pour définir cette identité-là?
C'est quoi, à ton sens, les outils pour faire ça? C'est du monde? C'est de l'argent?
Comment tu peux parler à des amateurs de foot qui, eux, ça fait 10, 15, 20, 30 ans qui vivent du foot, qui ont chacune leur propre particularité. Il y en a qui se lèvent le samedi matin pour écouter la Premier. Il y a d'autres, c'est le dimanche l'Italien qui écoute la Serie A. Il y a d'autres que c'est le Maghreb. Il y a différentes identités. C'est hyper compliqué.
Ouais.
Et là, tu te demandes à un gars qui probablement écoutait pas du foot il y a 2 ans. Voici, prépare et construis une identité. C'est tough, c'est hyper compliqué. Déjà, toi et moi, on s'en va là, on veut faire une identité à ce club-là. On sait pas trop comment le prendre, le contexte montréalais, le contexte québécois, vers quel...
Est-ce que c'est pour ça qu'il y a pelleté dans la cour d'Olivier Renard? Parce que c'est ce que Kevin Gilmore a dit.
Exact.
L'identité de notre équipe. Et là, il faut faire la distinction, à mon sens, c'est pas ce que Kevin Gilmore a dit, mais pour moi, il faut faire la distinction entre l'identité sportive de ton équipe sur le terrain. Là, on revient au spectacle. Ça, c'est sûr que c'est un des éléments que Kevin Gilmore a passé comme commande. On entend ça là, depuis des mois maintenant.
Ouais.
Ça prend un spectacle plus divertissant. Après, t'as l'ADN de ton entreprise. La culture de ton entreprise, c'est quoi? Et au fil des ans, la culture de l'entreprise, ça a été gère ça, règle ça avec de l'argent, fais un gros flash une fois de temps en temps parce que les choses vont pas bien, puis gagne.
Ouais, mais moi à l'époque là, quand Joey Saputo était beaucoup plus présent dans les médias dans les premières années, moi j'aimais son discours où il disait l'Impact de Montréal va être la figure du foot au Québec. C'est Là, quand on parle soccer, on parle Impact de Montréal. Donc, quand on parle développement du joueur, on parle Impact de Montréal. Quand on parle
mais
de...
Mais tu peux pas dire ça quand tu mets la clé dans ton équipe réserve, Nilton. Tu sais, à un moment donné, c'est beau les beaux discours. Puis on nous a toujours parlé de philosophie, d'identité, de transparence.
Mais l'équipe réserve, ça aussi, je trouve que c'est un méga mirage. Parce que c'est pas le seul outil pour développer des jeunes.
Mais non, mais tu peux pas passer. Hey, là, on va faire une demi-heure là, Nilton. J'aime ça. Tu peux pas avoir toute une structure de 8 ans à 19 ans.
Je comprends.
Quand, c'est comme je dire, comprends. Le Canadien de Montréal a du mag, je sais pas trop quoi, de l'atome, jusqu'en haut. Puis là, t'arrives au junior majeur, tu dis, ben là, va-t'en dans un collège américain, régler ça, puis tu reviendras. Ça peut marcher pour certains.
Ouais. Dans un monde idéal, c'est sûr qu'il faut une équipe réserve. Ça, c'est personne peut s'obstiner là-dessus. Mais est-ce que l'impact de Montréal est rendu au développement de son club pour être capable d'avoir une équipe réserve et de bien développer des joueurs via une équipe réserve? Je le sais pas encore. Je veux dire, l'impact de Montréal sont capables de sortir combien de joueurs de qualité, je parle même pas de MLS, mais de joueurs de niveau professionnel assez intéressant d'année en année.
Mais même si c'est deux.
Mais pourquoi t'as besoin de dépenser un ou deux millions?
Parce qu'au bout de 5 ans,
mais tu peux l'envoyer ailleurs.
Ouais, mais là, t'as pas de contrôle là-dessus. Regarde, en ce moment, ton ailleurs, c'est le Fury d'Ottawa.
Ouais, ça c'était probablement un mauvais réflexe qu'on a eu d'avoir ce club-là affilié. Moi, j'utilise ce que j'ai vu au Portugal. Là, c'est récent qu'il y a des réserves Benfica, Sporting, Porto. Pendant très longtemps, ils n'avaient pas. Ils avaient des clubs amis. Tu sais, chacun avait leur propre club ami.
Des clubs amis et... Parce que c'est tellement intéressant ce que tu amènes comme exemple, c'en est un vraiment particulier, mais surtout en haut, la capacité à faire jouer les gars très jeunes et la volonté de les faire jouer très jeunes.
Et aussi une disponibilité de les faire jouer très jeunes. Là, présentement, on l'a avec la USL, ils leur sont rendus à quoi? 3 divisions. Selon les joueurs, tu peux les prêter et puis là, t'as la CPL. Je veux dire, trouve l'endroit parfait pour placer Pantémis. Au lieu de on a une équipe réserve, on a deux gardiens, on sait pas trop lequel est bon, celui-là elle semble avoir une certaine avance, donc c'est lui. La réserve, dans un monde idéal, tu contrôles tout, je dis oui, go. Si on n'est pas capable de bien le faire et on n'a pas l'argent pour le faire tout de suite, on peut utiliser d'autres choses.
Bref, on a divagué un petit peu là-dessus parce que le point de départ, c'était Joey Saputo et son discours au départ qui disait
qui était
nous, on veut être l'image du soccer au Québec et toi, t'aimais ça à ce moment-là. Maintenant, pourquoi on en est arrivé au point où Joey Saputo, dans la dernière année, a dit je cède ma place?
Parce que lui, c'est un gars hyper émotif, les sentiments, lui, c'est la victoire, il a toujours été habitué à la victoire, sa fameuse vision long terme était de semaine en semaine, ça pouvait tout casser parce qu'il y avait...
Ouais, long terme, c'était une semaine, c'est ça. Non, mais...
Mais il y en avait un long terme, mais 7 jours plus tard, ça pouvait changer, donc il fallait quelqu'un...
Ou si
neutre.
T'avais un match sur semaine, de mercredi, ton long terme, c'était du samedi au samedi, c'était pas mal
mais
ça.
Je me reconnais en lui, tu sais, on est... On l'attaque souvent de Joey Saputo, mais bordel, Joey Saputo, là, s'il était pas là pour donner ce coup de barre-là à ce club, ça serait un club un peu à la dérive, un peu de tout ce qui
pense.
Ah, moi, oui, parce que c'est. Il représente les fans, là. Les fans, on est tellement. Je veux dire, peu importe le sujet qui touche soit le foot ou l'impact de Montréal, on réagit hyper fort comme partisans.
Ouais, mais.
C'est pas mal l'image de Joey Saputo.
Ouais, en même temps, moi j'ai jamais entendu le Canadien de Montréal se plaindre de ses fans parce qu'il n'y a pas de buzz.
Ouais.
J'ai jamais entendu le Canadien de Montréal dire qu'ils ont peur de marquer l'histoire négativement. J'ai jamais entendu le Canadien de Montréal monter aux barricades publiquement, puis là peut-être que je me trompe là-dessus, mais pour se plaindre des taxes municipales. Publiquement?
Ouais. Non, parce qu'ils ont réussi à
ben c'est ça, à faire du back-channeling.
Mais l'indifférence des Alouettes, même si dernièrement ils ont connu une belle saison, je veux dire
25 000 personnes pour un match hors concours avant la saison, les Alouettes, Nilton. Il y a eu combien de matchs de 25 000 personnes l'Impact de Montréal cette année?
Moi, les billets puis les foules, ça me purge là. Et on peut faire ce qu'on veut avec ces billets là.
Un petit commentaire parce que je pense que ça termine bien notre deuxième bloc de revue de la saison 2019 de l'Impact. Joey Saputo, Nick DeSantis, ça a été deux noms indissociables. c'est vraiment quelque chose de gros,
ouais.
Le départ de Nick DeSantis. Parce que oui, il y a l'arrivée de Kevin Gilmore, mais jamais, et là peut-être que tu partages pas cette option, cette opinion-là, mais jamais en commençant l'année, je pensais pas que Nick se rendait, allait... Bref, quitter le club avant le temps des fêtes. Là.
Jamais, jamais, jamais. Là. Jamais j'aurais parié sur un départ de Nick DeSantis. On a été probablement collectivement trop sévère sur Nick DeSantis parce qu'il y a eu des histoires de réaction un petit peu là, de sa part. Mais je veux dire, Nick DeSantis, lui, c'était l'ultime tampon entre le club et Joey. Il a peut-être, probablement, il a fait des erreurs. Je connais pas toute son histoire parce que une histoire, c'est impossible de pas créer de vagues puis d'accrocher.
En 26 ans,
impossible. C'est impossible.
Dans tous les rôles, Nathan, comme joueur, comme coach, comme directeur technique, comme recruteur. Comme VP, ouais. Écoute, il n'y a rien que le gars.
De l'extérieur, moi, je pense que Nick DeSantis a tellement beaucoup plus aidé ce club-là qu'il le nuit. C'est une perte. C'est tellement un aspect qu'on retrouve dans les autres clubs européens. Tu sais, il y a des joueurs comme ça là qui deviennent des figures emblématiques après leur carrière, puis que tout passe par ce joueur-là. Des fois, c'est bien, des fois, c'est mal. Son départ, c'est un peu triste, mais... Personnellement, j'aimerais ça le voir rebondir quelque part. Peut-être pas en MLS, mais une petite compétition avec l'Impact de Montréal avec un autre club, ça serait le fun.
Tiens, pour recruter des Argentins pour jouer ailleurs en MLS. On va faire une courte pause, Nilton, si tu le permets. De l'autre côté, on poursuit notre revue 2019 de l'Impact de Montréal au FC 919.
91.9 Sport. La référence sportive du temps des fêtes.
Les soldes d'après-Noël sont en cours chez Mulligan Centre du Golf. Des tonnes d'offres incroyables vous attendent en magasin, dont des rabais pouvant aller jusqu'à 50%. Venant profiter du 26 au 31 décembre pour partir la nouvelle année du bon pied. Mulligan Centre du Golf, pour un nouvel élan.
Woodland Toyota Verdun. La concession qui est près de vous est près pour vous. Woodland Toyota Verdun, mon concessionnaire d'Hilary.
Partisans de hockey, vivez l'expérience électrisante du Rocket de Laval à la Place Belle. Vendredi le 3 janvier à 19h30, le Rocket accueille les Phantoms de Lehigh Valley. Ce sera le match hockey d'antan présenté par la fromagerie Saint-Albert. Et pour l'occasion, le Rocket portera un uniforme spécial rendant hommage aux anciens clubs affiliés des Canadiens de Montréal. Et samedi le 4 janvier à 19h, le Rocket reçoit le Crunch de Syracuse dans le cadre du match présenté par Cascade Fluff et Tough. Billets disponibles à partir de seulement 19$, taxes incluses. Pour tous les détails, rendez-vous à rocketlaval.com.
Vap Dépôt, la plus grande chaîne de boutiques d'articles de vapoteurs au Canada. Vap Dépôt, plus de 40 magasins au Québec, ouverts 7 jours. Vap Dépôt, un service de qualité supérieur. Vapdépôt.ca, franchise disponible.
Cet hiver, faites-vous pas prendre.
Le Québec a droit à une vraie tempête aujourd'hui. Les conditions routières commencent déjà à être difficiles.
Faites comme l'équipe du 91.9 Sport et restez au chaud grâce au manteau Valenga. Autant pour hommes que pour femmes, de taille régulière à taille forte, ces manteaux 100% faux Québec sont éprouvés pour nos hivers d'ici.
Bonne nouvelle, on annonce 30 cm de neige et moins 20 degrés. Ça, c'est une vraie journée d'hiver Valenga.
Disponible chez nos détaillants ou au valenga.ca.
De la part de toute l'équipe de l'Hippodrome de Trois-Rivières et des Salons de Paris du Québec, nous vous remercions pour une belle année 2019 remplie de succès et d'excitation. En attendant la nouvelle saison, nous vous souhaitons de joyeuses fêtes. Pour toute information, www.hippodrome3r.ca.
91.9 Sport.
Spécial des fêtes.
Difficile de trouver mieux.
Pour notre dernier segment de la revue 2019 de la saison de l'Impact en compagnie de Nilton George, ben Nilton, on va revenir sur ce qui s'est passé dans les derniers milles de cette année 2019, forte en rebondissement. Et ces choses-là nous font surtout pas regarder vers l'arrière, mais regarder vers l'avant, avec ce qui s'en vient en 2020. D'abord, Nacho Piatti, est-ce qu'il revient à 100% puis est-ce qu'il revient avec un sourire d'en face, oui ou non?
Moi, depuis toujours, j'ai cru au retour de Nacho Piatti. Nacho Piatti, souvent je le dis en blague, il me fait penser un peu à ma grand-mère. À chaque Noël, c'est son dernier. Et elle est là depuis des dizaines d'années. Nacho Piatti, c'est pas la première fois, là. Tu sais, là, sur le terrain, il a décidé, hein, au dernier match qu'il faisait ses adieux. Tout le monde a été surpris. Je veux dire...
Tout le monde a été surpris. Pourtant, c'était dans l'air un peu.
C'était dans l'air, mais je veux dire, quand tout d'un coup, il se promène sur le terrain, il fait ses adieux, et là, tu l'as vu, les joueurs étaient un peu figés, ils savaient pas trop ce qui se passait. Et là, tout d'un coup, tu vois Clément Diop qui quitte. Tu sais, il est
Ouais, et Clément Diop, pour ceux qui se rappellent pas de la séquence, Clément Diop était dans les buts parce que c'est lui qui a gardé les derniers matchs de la saison et il quitte sa surface de réparation pour aller jusqu'au milieu du terrain embrasser Nacho Piatti. Tu fais pas ça juste pour un changement comme les autres.
Non.
Tu fais ça parce que t'as l'impression qu'il y a un moment crucial dans la carrière d'un gars ou dans la saison. Et c'est ce qu'on pensait tous avant qu'on arrive au bilan de saison et qu'on nous dise qu'on allait exercer l'option de Nacho Piatti pour 2020.
Tout à fait. Et aussi, tu sais, le fait de le sortir là à 2 minutes de
pourquoi
la
tu
fin.
Fais ça?
Exactement, tu sais,
mais c'est Wilmer Cabrera, il était pas au courant, il était pas dans le loop lui.
Oh, et peut-être que Nacho
Wilmer, hein, mais ça peut-être... c'est un autre dossier là.
Wilmer.
On va s'en rappeler de Wilmer Cabrera, on va se rappeler de
oui, Whiskey Wilmer, on va s'en rappeler un peu.
Sa citation de Narcos.
Là. Ah, c'était magnifique.
Mais ça va rester pour toujours.
Mais il avait raison.
Comparer les gars du cartel de
non Cali mais il avait dit il parlait du stress
Saputo.
Non il avait pas dit
non,
concernant le stress
non, non. Écoute non, il se serait pas rendu au lundi matin là, s'il avait fait cette comparaison là
non
il parlait
non.
du niveau de stress et du niveau de peur peut-être qu'il l'habitait à ce moment-là. Mais ceci dit, Nacho Piatti, le bilan de fin de saison ça a été weird de chez weird. Tu lui dis que tu vas le ramener l'année d'après, ça c'est 4 jours après qu'à la veille du dernier match de la saison, ils disent publiquement, devant les caméras, sous les micros, « Je veux revenir, si c'était juste de moi l'année prochaine, je serais de retour à 100%. » Le club lui confirme, t'as l'impression que il part au dépanneur se chercher une bouteille de champagne. Ben non, il part, il revient pas, c'est la confusion la plus totale. Et finalement, des semaines, 7 semaines plus tard, on confirme que Nacho Piatti, on a activé son option, mais... On a aussi Olivier Renard, directeur sportif du club, qui dit « J'espère qu'il va revenir avec la volonté d'être là et avec un sourire au visage. »
Mais moi, je vois cette situation-là, c'est le premier effet du départ de Nick DeSantis.
Ouais, parce que la relation, c'était une relation de grande proximité entre soit Nacho et Nick directement ou au minimum entre Nick DeSantis et l'agent, les représentants de Nacho Piatti.
Il y avait fort probablement, sans aucune preuve, mais fort probablement, des garanties, des promesses, des conversations qui ont été complètement brisées avec son départ. Olivier Renard arrive, il dit ben, « Moi, j'ai carte blanche. Là, moi, je construis un club. Et dans ma palette d'outils, j'ai la possibilité de prendre mon meilleur joueur, d'activer ton contrat et de protéger cet actif-là. OK, toi, probablement, tu avais des garanties de pouvoir partir. »
Mais pourquoi tu dis je veux rester dans ce cas-là? Moi c'est là où j'ai un peu de misère
mais
avec Nacho.
Mais c'est ça.
Ouais, mais c'est moi j'ai l'impression là que c'était il y a un petit côté baby-faced assassin là-dedans.
Totalement.
Pas physiquement là, mais dans son discours, c'est comme moi j'aimerais beaucoup rester, mais finalement je m'en vais. Il y a quelque chose d'incohérent là-dedans.
Rappelle-toi là, à chaque période des fêtes là, c'est les fameuses rumeurs du retour en Argentine et même en Argentine, il se contredit, il dit quand il fait des entrevues avec les stations de radio de San Lorenzo, il dit « Mon seul club, si jamais je reviens, ça va être ici. » Et là, tout d'un coup, 6 mois plus tard, ben il y a un autre club, Edip Yandente, qui est là, qui se présente, puis il n'y a plus de problème. S'il est arrivé en MLS, Nacho, c'est qu'il aime pas les conflits. Il est peut-être malhabile aussi au niveau communication. Et on le voit, ça. S'il fait une entrevue, il sait à qui il parle, il dit ce que les gens veulent écouter. 2 jours plus tard, s'il fait une autre entrevue avec d'autres personnes, il va... Quand il est arrivé à l'Impact de Montréal, il a été brassé par les ultras. Pourquoi? Parce qu'il a dit, le pauvre, « Mais je m'en viens ici en MLS, puis j'aspire un jour à jouer peut-être... »
Ailleurs.
À LA, New York.
Ah ouais, dans un grand marché. Il était même pas atterri à Montréal.
Il était pas encore...
Non, c'est vrai, il était pas atterri à Montréal, puis il disait « Ouais, c'est un tremplin pour aller dans un grand marché. » À ce moment-là, les grands marchés, c'était pas Atlanta, LAFC, c'était le Galaxy ou les Red Bulls.
Et on le voit au niveau communication, j'ai toujours... plus ou moins donner de la valeur à ce qu'il pouvait dire. J'ai essayé de comprendre un peu plus le contexte pour comprendre comment qu'il se retrouve dans telle situation. Il est un peu malhabile. Puis c'est probablement ça qui est arrivé en fin de saison.
Fait que je te repose la question. Est-ce que Thierry Henry va coacher Nacho Piatti, oui ou non?
Oui. Oh, je pense que oui.
Est-ce que Nacho Piatti va avoir le sourire d'en face pendant qu'il va être sur le terrain sous la gouverne de Thierry Henry?
Si c'est lui qui joue souvent le ballon, oui.
Ah, ça c'est excellent. Mais justement, parlant d'avoir le ballon, on en a très peu parlé depuis tantôt. On a discuté du spectacle qu'on voulait offrir sur le terrain. On a eu tout un spectacle, un énorme feu d'artifice quand on a appris que Thierry Henry s'en venait comme coach de l'Impact. Ça a été un gros accueil à l'aéroport. Ça a été un centre Nutrilait vraiment grouillant, bondé comme je l'ai jamais vu bondé au moment de sa conférence de presse. Une tournée des médias aussi de Thierry Henry qui a été impressionnante parce que je discutais avec des collègues, je sais pas s'il y a quelque chose qui te vient en tête, Nilton, mais Thierry Henry comme membre d'une équipe, pas comme représentant pour Puma ou pour Nike, puis tu t'en vas en Asie, puis là tu fais une tournée où c'est la folie dans les médias, mais comme athlète ou comme coach, il a jamais vécu une journée comme ça.
Non, c'est vrai.
Parce que tu fais un one-stop shop d'habitude, tu fais une conférence de presse, puis après ça, tout le monde part de son côté pour écrire son histoire ou faire son émission, ou t'offres une émission, une entrevue exclusive avec un média et tous les autres font du pouce là-dessus. Et là, il a fait une tournée au complet. Est-ce que tu as l'impression qu'on va avoir un Thierry Henry aussi généreux sur une base régulière? Est-ce qu'on lui a parlé de l'importance de ça ou, à ton sens, c'était une opération charme puis là, ça va être la business sur le terrain qui va primer à partir de janvier?
Moi, ce que j'ai vu, c'est l'apprentissage que le club de l'Impact de Montréal a eu avec l'arrivée de Didier Drogba qui a été un peu trop précipité, puis on était inexpérimenté parce que Didier Drogba, ça a été ça, il était là sur place, les médias, de ce que je comprenais, avaient 5 minutes pour faire ses questions puis c'était fini.
Tu veux dire à l'aéroport?
Non, à sa présentation.
Ah, la première fois.
À Didier Drogba. Et là, non, là, c'était une vraie planification de communication. On a fait la tournée des médias avec des objectifs différents. Là, c'est sûr que c'est facile à faire ça quand t'as aucun dossier derrière toi à protéger. Là, t'es vierge et ça peut être que du positif. Comment qu'il va réagir?
Ça peut pas te tenter. Tu peux dire moi je suis un coach, je suis pas un conférencier.
Oui, mais le fait qu'il choisit la MLS, c'est qu'il a compris. Il voit ce tremplin là.
Moi, que ça en fait partie.
Oui, exactement. Lui, il l'a vu comme joueur, mais là il voit que bon, son expérience européenne, ça a mal tourné et sa véritable première chance de bien réussir et de lancer sa carrière comme entraîneur, c'est avec l'Impact de Montréal. Puis il est pas idiot, il voit les gens, c'est tout est vendu d'avance là. Il peut dire à peu près n'importe quoi, tout le monde va aimer ça parce que
tu penses?
Ben dans sa tournée des médias.
Ouais, en commençant.
Oui.
Mais moi je pense que Rémi Garde, s'il y a une chose qui a un peu, je sais pas si je peux utiliser le mot brûler les gens, mais tu sais, il y en a des coachs qui sont passés avec des profils complètement différents. Il y en a qui disaient blanc, il y en a qui disaient noir, et ça, c'est tout à fait correct parce que ils ont le droit à leur façon de voir les choses. C'est au club de bien choisir les pions que tu veux mettre en charge de ton équipe. Mais Wilmer Cabrera, là.
Ben, le pauvre.
Ça a pris, ouais, le pauvre. Mais en même temps, à un moment donné, tu contrôles ce que tu dis. Tu contrôles pas le contexte dans lequel on t'a parachuté, puis ça a été carrément ça. Mais à un moment donné, Cabrera s'est mis à dire tout et son contraire dans la même phrase. Ça n'a pas fait 2 semaines que ça a été démasqué, ça.
Ouais.
C'est peut-être, comme tu dis, lui, le pauvre, qui s'est retrouvé dans un contexte ingérable, mais tu contrôles ce que tu dis. Moi, je pense pas que Thierry Henry va avoir le luxe de longtemps dire des choses qui se contredisent.
Ouais, ça risque de moins d'arriver, mais moi, je fais pas partie des médias, donc je peux pas parler pour eux. Mais moi, j'ai trouvé que les médias se sont sentis un peu libérés une fois Cabrera est arrivé pour pouvoir dire des choses qu'ils n'osaient pas demander à
Rémi
Garde. Le challenger Rémi Garde, c'est compliqué. On le voyait, là, les gens avaient peut-être pas cette confiance-là. Peut-être que certains journalistes avaient peut-être pas assez de background ou ils se donnaient pas assez de crédibilité pour critiquer certains gestes. Dès que quelqu'un essayait de blâmer les changements, les choix, donc ça virait rapidement à une confrontation. Et Rémi Garde, ça a été pas mal le cruise control au niveau média jusqu'à la presque toute fin. Et là, quand Wilmer Cabrera est arrivé pour faire des fois la même chose que Rémi Garde, bang, il se faisait rentrer dedans. Je trouvais le traitement comme un peu... J'étais très, très surpris du traitement.
Mais Rémi Garde a été cohérent avec ses propres propos. Parce que moi, je suis le premier. J'ai eu une petite prise de bec avec Wilmer Cabrera. Et il a même pris le téléphone des gens des médias pour m'appeler pour s'excuser. Mais moi, c'est pas la position de Rémi Garde avec laquelle j'étais d'accord. Je comprenais sa cohérence. Là, puis je reviens à ce que je dis par rapport à Thierry Henry. C'est pas sa position sur est-ce que je fais des changements ou j'en fais pas. Est-ce que je fais jouer un tel plutôt que l'autre. Ça, c'est des choix, puis t'es payé pour faire ça. Maintenant, si tu dis A le mardi puis tu dis B le mercredi,
ouais, tout à fait.
Là, on a un problème et c'est ça que Wilmer Cabrera a fait. Écoute, le gars est embauché, puis on le disait en début de revue, pour sa connaissance du reste de la MLS, il arrive, il nous dit dans la même réponse que Rod Fanny s'en vient bientôt, mais en même temps, ça va être long. Essaye de comprendre ce que ça veut dire.
Ouais, puis...
Et au bilan de fin de saison, il dit « Je le connaissais pas, Rod Fanny. »
Ouais. D'où t'arrives?
Écoute, t'as été embauché parce que tu connaissais le reste de la ligue jusqu'à il y a 10 minutes et demie. On était, pour toi, le reste de la ligue. Et c'est là que je pense que la limite de la patience des médias, en termes juste de cohérence, parce que c'est ça qui était difficile avec Rémi Garde,
oui,
c'est que tout le monde était avait un ou deux éléments où tu disais, mais je suis pas d'accord avec toi. Ceci dit, il était tellement fidèle à ses propres convictions, à tort ou à raison, que tu pouvais pas y reprocher, parce que en haut de lui, qui était là pour y reprocher?
Personne.
Est-ce que, en ce sens-là, Olivier Renard, c'est la plus belle affaire qui est pas arrivée en 2019?
Tout à fait. Mais en même temps, tu sais, il y a eu des occasions où on pouvait challenger Rémi Garde, puis moi, en tant que fan qui regardait ça, j'ai senti une certaine frustration parce que c'était balayé du revers de la main. Par exemple, il porte le titre de directeur du personnel.
Ouais.
En début de saison, il dit tout candidement, Maxime Crépeau, j'ai pas vu une minute. Comment ça, t'as pas vu une minute? C'est comment t'as décidé que dans un contexte MLS où gérer l'argent, c'est la priorité, il faut que tu obtiennes les meilleures qualités en minutes possibles pour l'argent que tu dépenses. Et tu dis, Maxime Crépeau, je l'ai jamais vu, donc on peut s'en débarrasser sans problème. Pourquoi on ne challenge pas? Pourquoi on fait pas ça avec Rémi Garde? Est-ce qu'on va avoir la même retenue avec Thierry Henry quand il va faire des choix bizarres, quand il va s'ostiner sur certaines tactiques qui ne fonctionnent pas? Est-ce qu'il va se trouver des raisons comme Rémi Garde pouvait trouver des raisons au niveau arbitrage, organisation, tout ça? Je veux dire, des fois on n'osait peut-être pas trop parce qu'on n'avait pas la confiance en tant que média de notre côté pour le challenger. Et quand Cabrera est arrivé, j'ai trouvé tout d'un coup, tout le monde a grandi de 4-5 pouces.
Oui, mais Rémi Garde est un gars avec une stature extraordinaire.
Et un vocabulaire incroyable.
Et voilà, comme quoi la qualité de communicateur, des fois, ça peut faire un énorme changement. Écoute, Nilton, ça a été un grand plaisir de partager ces minutes-là avec toi pour faire la revue de l'année. Maintenant, on a regardé un petit peu ce qui s'en vient. Il y a la Ligue des champions CONCACAF qui arrive au mois de février. Il y a le début de la MLS qui va se faire aussi au mois de février. Ça, c'est pour une première fois de l'histoire de l'impact dans le circuit Garber, parce que depuis 2012, on commence toujours... Bon. C'est début, premier week-end de mars, mais quand même, étant donné que c'est une année bissextile, on va en profiter pour commencer ça au deuxième mois de l'année en 2020. On se souhaite quoi pour le temps des fêtes chez l'Impact de Montréal?
Oh mon Dieu, on se souhaite une structuration de l'effectif rapide, efficace, le moins de drama possible. Faut pas oublier, là, à chaque Noël, il y a quelque chose qui se passe. Là. L'année passée, on l'a pas vu arriver avec Silva. Vraiment une stabilité au niveau de l'effectif. Moi, les gens ont très hâte de voir qui s'en vient au niveau de l'effectif, mais moi, j'ai hâte de voir qui s'en vient au niveau staff.
T'sais, pour aider Thierry Henry.
T'sais, c'est le nouveau foot. Oui, il y a le coach qui est important, mais son second est quasiment... Ben, j'allais dire.
Tu penses que son second, c'est pas Wilfred Nancy?
Je le sais pas. Franchement, je pense que non. Je pense que lui, il va vouloir s'entourer pour sa carrière. T'sais, il voit là, les
d'un mentor,
exactement, ou quelqu'un de tactique avec une vision qui lui appartient. Je veux rien enlever à les gens qui sont en place.
Arsène Wenger comme numéro 2.
Oh boy. Wow, ouais.
En veux-tu de l'argent?
Ouais, c'est ça, c'est non. Mais bon, bref. Mais tu sais, c'est une nouvelle tendance en football international européen. Ah, ouais. Comme on José Mourinho qui est arrivé avec un gars de Lille qui a 30 ans, qui a jamais joué, mais qui est une méga tête de foot. J'ai hâte de voir vers quoi on va se diriger pour compléter le staff.
Et juste pour être carte blanche avec montrer patte blanche, pas carte blanche. Ça, c'est une expression qui est très utilisée dans l'univers de l'Impact. Au moment d'enregistrer cette émission, revue des fêtes, il n'y en a pas eu de drama encore. Ceci dit, encore quelques jours avant la diffusion ou les diffusions de cette émission. Donc, ça se peut que ce soit arrivé. Si c'est le cas, Nilton vous avait averti. Puis, si c'est pas arrivé encore, on vous souhaite un excellent temps des fêtes et surtout un très bon début d'année 2020. Nilton, merci beaucoup.
Merci de l'invitation.
Merci à vous d'avoir été à l'écoute. On vous souhaite, je le répète, de joyeuses fêtes.
91.9 Sport.